de l'Épître aux Thessaloniciens. Alors vous avez tous vos Bibles, comme c'était mentionné sur l'invitation, on vient pour faire une étude biblique, alors on vient avec la Bible. Alors, on va faire le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2e, verset 12e. Je veux croire que vous vous souvenez déjà de ce que nous avons lu, parce que nous avons lu toute l'Épître hier soir. Je dis cela pour ceux qui n'étaient pas là. Et je recommanderai à ceux qui ne sont arrivés que ce matin de trouver un moment pour lire eux-mêmes dans un aparté cette Épître du chapitre 1er au dernier. Parce que c'est comme cela que vous entrerez dans la connaissance de la parole et que vous serez béni. Je sais que vous me direz, mais c'était long hier. Combien est-ce qu'on a pris pour lire cela? 20 minutes, pas même. Hein? 20 minutes. On a commencé à 25, puis c'était fini à moins le quart. Hein? Mais on avait lu l'Épître. Vous ne vous souvenez pas de tout. Mais maintenant, on va la reprendre. Mais vous avez déjà une idée, vous avez vu, à une certaine altitude, vous avez vu, au fond, les points principaux. Et nous allons maintenant simplement alors, hier soir, dans un mot de bienvenue, puisque tous n'étaient pas là, c'était vraiment la bienvenue du Seigneur lui-même que nous avons entendu, et je le rappelle, que nous a-t-il dit ce mot extraordinaire qui devrait faire brûler nos cœurs d'espérance, « Je reviendrai ». Et non seulement il reviendra, mais il nous a dit qu'il nous prendrait auprès de lui. Et je veux croire que certains cœurs ont été touchés hier soir en entendant le Seigneur dire « Je reviendrai ». Parce que la promesse du retour du Seigneur, dans l'Écriture, elle est appelée une bienheureuse espérance. Et je vous pose affectueusement la question, quand on vous parle du retour du Seigneur, et que ça serait possible qu'il revienne pendant votre vie, est-ce que cela vous donne de la joie? Est-ce que c'est pour vous une bienheureuse espérance? Je vous cite le verset, c'est dans l'Épître à Tite, au chapitre 2e. Il est dit au verset 12e, au 11e, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, c'est donc dans notre monde, selon la sagesse, quant à nous-mêmes, parce que vous ne vivez pas selon la sagesse, vous vous détruisez. Selon la justice, c'est vis-à-vis des autres, et puis, selon la piété, c'est vis-à-vis de Dieu. Il y a trois choses. Hein. La grâce de Dieu nous enseigne comment nous devons vivre. Sagement, si vous exagérez sur un point ou sur un autre, vous allez le payer. Justement, vis-à-vis des autres, vivre dans la justice, ne pas commettre d'injustice, et puis, dans votre relation avec Dieu, aimer Dieu. La piété, c'est être en relation avec Dieu, que Dieu soit avec nous à tout instant, tous les jours. Ce n'est pas un compagnon gênant, c'est le grand libérateur, c'est celui qui nous délivre, et nous devrions connaître tout ce qu'est la puissance de Dieu. Si Dieu est avec vous, vous ne serez jamais abandonné. Certes, vous aurez des épreuves, mais quand l'épreuve vient, immédiatement, vous pensez à qui ? À Dieu. Il est là, et il ne va pas me laisser. Il ne va pas m'abandonner. Du reste, la preuve que vous n'avez pas été abandonné, c'est que vous soyez là, aujourd'hui. Hein. Parce que si vous aviez été éprouvé d'une façon surhumaine, vous ne seriez plus là. Donc, tout a été mesuré, et vous n'avez pas été abandonné. Vous avez donc déjà une expérience que, au sein de vos épreuves, Dieu a manifesté sa puissance. Mais, on lit plus loin, vivre dans la sagesse, la justice et la piété, verset 13, en attendant quoi ? La mort. C'est ça ? Non. En attendant la bienheureuse espérance. Vous voyez que c'est une bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a donc cette bienheureuse espérance qui est devant nous et qui nous habite, et quand elle sera réalisée, alors il y aura la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, mais qui veut se manifester au monde incrédule en nous ayant avec lui. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il vient d'abord pour les siens, pour revenir avec les siens, pour être manifesté au monde. Quand lui sera manifesté, nous serons manifestés avec lui. Et pour que vous ayez bien la certitude que je n'invente rien, au sujet de cette manifestation, eh bien, vous l'avez dans Colossiens, au chapitre 3, il est dit au verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Vous savez qu'il est là-haut, hein, assis à la droite de Dieu, et que c'est de là qu'il reviendra. Il n'y a pas besoin de courir dans une ville ou dans une autre du Canada pour le trouver. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Quant à toutes ces choses qui sont sur la terre, ben vous êtes morts. Et votre vie est cachée dans le Christ en Dieu. Votre vraie vie, votre vie véritable, elle est cachée en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, qu'est-ce qu'il y aura ? Alors, vous voyez, il y en a alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le moment où vous devrez être glorifié, c'est le moment où le Christ sera glorifié dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, il est méprisé. Et vous, vous voudriez vous glorifier ? Là où Christ a été crucifié, là où Christ a été méprisé, là où Christ a été rejeté, c'est tout à fait normal qu'on soit nous aussi rejetés. N'est-ce pas ? Si on est vraiment disciple du Maître, c'est dans le programme, alors on le sait, et on ne met pas en doute la puissance et la bonté de Dieu, parce que nous avons des difficultés, parce que nous sommes persécutés. Mais non, mais je sais que quand le Christ sera manifesté, alors je serai manifesté avec lui en gloire. Mais ce temps-ci, ce n'est pas le temps de nous montrer. Vous voyez ce que je suis. J'ai essayé de vous dire, hein. Quant à la chair, quand je regarde ma chair, je me vois bien pire qu'au moment de ma conversion. Parce qu'il y a plus de lumière dans mon cœur. Et je vois tout ce qui a pu habiter dans mon cœur. Mais à tout cela, je suis mort. Et j'y renonce. Je ne peux pas empêcher les pensées d'être là. Mais quand je vois ces pensées, je dis, Seigneur, comme je suis heureux d'être sauvé par toi. Et je me juge. Et je ne suis pas mes pensées qui ne vont pas devenir des actes. Et si même elles étaient devenues un acte, eh bien, évidemment, alors nous nous humilions devant Dieu et nous confessons notre péché, mais on n'y reste pas. Une fois qu'on est au Seigneur, on peut encore tomber, on peut encore avoir des chutes parce que la chair est là, parce qu'on est dans un monde où tout est fait pour vous faire tomber. Mais à ce monde, nous devons dire non et être mort, mais alors il nous faut autre chose. Et il faut la communion avec les croyants et la communion avec le Seigneur. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tuait. Hein. Si vous fréquentez des mauvaises compagnies, vous voulez soi-disant les convertir, puis c'est eux qui vous convertissent. Mais j'ai entendu un pasteur qui disait « Maintenant, l'heure est venue de convertir l'Église au monde. » Voilà où on en est. Parce que les églises se vident, ben, il faut amener le monde dans l'Église, hein, à n'importe quel prix. Et puis alors, on ne sait plus ce qu'est l'Église, qu'est le monde, et tout ce... Et vous savez, mes amis, je vous parle sérieusement, quant à ce qui va venir dans notre pays, ici, ça sera ou une bénédiction, ou un jugement de Dieu. Alors faites attention. Si ça va mal, ça sera un jugement de Dieu. Sur le Québec et sur le Canada. Si ça va comme Dieu le voudra, c'est qu'il aura encore usé de grâce et de patience. Mais vous aurez ce que vous méritez. Nous aurons ce que nous méritons. Et ce que nous aurons peut-être choisi. Si nous ne dépendons pas de Dieu, alors... Oh, je supplie le Seigneur que dans ce monde, ce ne soit pas un jugement, mais que ce soit encore un temps de grâce. Parce qu'on ne sait pas où nous allons. Regardez un peu le monde, regardez la France. J'ai des enfants en France, j'ai beaucoup de familles là-bas. Eh bien, ils sont dans le désarroi, on ne sait plus quoi faire. Avec ces bombes qui peuvent sauter dans un métro, etc. Vous ne savez pas ce qui peut arriver aussi. Alors que Dieu nous garde et que nous ne nous laissions pas enflammer par les uns ou par les autres, parce que ce sont tous des hommes, ils font des promesses magnifiques, et ce sont des hommes, et qu'est-ce qu'il est dit? Que Dieu soit vrai, et tout homme menteur. Alors, que la parole de Dieu vous inspire et vous garde. Donc, le retour de Christ, nous y revenons, est une bienheureuse espérance, et alors sa manifestation sera aussi notre manifestation. Mais quand nous voulons nous manifester nous-mêmes, ben vous savez, c'est pas très glorieux. Hein, quand on parle de soi, de ce qu'on a fait, de nos œuvres, d'abord on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la... Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alors, mes amis, la promesse du retour de Jésus a été dans tous les âges la bienheureuse espérance dont nous avons parlé, la bienheureuse espérance de tous ceux qui croyaient en Dieu, parce que Dieu avait fait cette promesse. Le chrétien est donc un homme d'attente, il vit dans l'attente, mais pas une attente anxieuse, une attente bienheureuse. Et si j'ai choisi la première épître aux Thessaloniciens comme toile de fond de nos études, c'est parce que le sujet essentiel dont elle parle, cette épître, c'est la venue du Seigneur. Et c'est quand même formidable que l'apôtre Paul n'ait pas pu rester plus de 3 sabbats pour enseigner dans la synagogue, afin que nous ayons la lettre qu'il leur a écrite, parce que s'il avait pu tout leur dire, on n'aurait pas cette lettre. Et même Jésus l'a dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, eh bien, il vous rappellera non seulement les choses que je vous ai dites, mais il vous enseignera les choses qui doivent arriver. Et c'est pourquoi on a le Nouveau Testament, on a les apôtres et les prophètes qui nous ont donné l'enseignement que Jésus n'a pas pu donner complètement. Mais l'enseignement de Paul ne dit plus, oh c'est Saint Paul, c'est pas Jésus qui a dit ça. Paul nous dit que ce qu'il a enseigné, il l'a reçu du Seigneur. Il ne l'a pas reçu de Pierre, de Jacques ou de Jean. Il l'a reçu lui-même du Seigneur. Le Seigneur glorifié, c'est plus à révéler ses pensées à un homme qui en était tout à fait indigne, car qui était Paul, avant sa conversion, Saul de Tarse, lui-même un persécuteur des chrétiens, des croyants. Et voilà que Dieu choisit cet homme pour en faire son témoin. Et il lui montre à l'avance combien il aurait à souffrir pour le nom du Seigneur. Alors, grâce à ces persécutions, nous avons le bénéfice d'avoir la première épître aux Thessaloniciens. Et quand vous lisez cette épître, il faut y chercher la vérité essentielle. De quoi est-il vraiment question? Quelle est la vérité essentielle de cette épître? Si je vous demande quelle est la vérité essentielle de l'épître aux Romains, je pense que vous le savez, hein? C'est quoi? La justification par la foi. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou par la foi? Eh bien, l'épître aux Romains a la réponse claire à cette question de Job, mais comment un homme peut-il être pur devant Dieu? C'est par la foi. Voilà ce qu'on appelle la vérité essentielle de l'épître aux Romains. Et c'est cela qui a provoqué la réforme. Quand Luther, qui était un prêtre catholique, un prêtre et qui aimait le Seigneur, mais qui n'arrivait pas à avoir la paix, quand il a découvert l'épître aux Romains, ben, c'était un trait de lumière justifié, non pas par mes œuvres en se regardant soi, hein, mais par la foi. Une foi qui n'allait pas être morte, mais qui allait produire des œuvres. Mais automatiquement, il était persécuté. On entend dire quelquefois que même l'Église romaine veut canoniser Luther. Pour arriver, bon. On n'attend pas ça, n'est-ce pas? Mais on est heureux que Luther ait apporté cette grande vérité qu'il n'a pas inventée. Elle était là dans la Bible. Mais on avait recouvert tout cela de sable. Pourquoi? Parce que on avait surtout besoin d'argent pour construire des grandes églises. Et alors il fallait promettre, si on payait, il y a eu toute l'histoire des indulgences. Vous comprenez? Mais nous n'allons pas entrer dans tout cela. Mais c'est pour vous dire, on cherche, quand on lit une épître, la vérité essentielle. Alors, la vérité essentielle de l'épître aux Thessaloniciens, c'est quoi? La venue du Seigneur. On va apprendre quelque chose sur la venue du Seigneur. Parce que chaque chapitre en parle. Chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10, attendant la bienheureuse, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc voilà, le premier chapitre nous parle que quand Jésus viendra, il va nous ravir avant la colère. La colère vient sur le monde. Même les incrédules le disent, ils nous disent nous allons au-devant d'une catastrophe, mais ils ne veulent pas changer. Hein. Mais ils savent bien qu'on va au-devant d'une catastrophe, de toute manière. Einstein l'avait prédit, mais il n'est pas un incrédule. Chapitre 2, verset 19. Vous voyez que tous les chapitres en parlent. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Est-ce que c'est une couronne de gloire? Pensez que le Seigneur revient? Parce qu'alors vous serez manifesté, si vous avez été fidèle dans l'épreuve. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Donc c'est quand il viendra que nous serons manifestés au monde, et que le monde reconnaîtra cela. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Prenez le chapitre 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour que vous soyez, à ce moment-là, irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, quand il reviendra, il aura avec lui tous ses saints. Et il les manifestera et le monde reconnaîtra que ils sont heureux ceux qui ont cru. Alors, chapitre 4, vous avez du verset 13 à 18, un enseignement très précis concernant ce qui se passera à la venue du Seigneur. Il ressuscitera les morts en Christ, en premier lieu, puis les vivants, ceux qui seront vivants, parce qu'il y a une génération qui sera vivante à son retour. Ils seront en un instant transmués. Vous rendez-vous compte comment on pourrait se réjouir? Chacun, plus ou moins, on a son cancer. Hein? On a des misères, puis tout d'un coup, plus de misères. Des corps qui, en un instant, et sans douleur, sans narcose, sont changés. Mais est-ce que vous y croyez? Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais vous dites, mais c'est Paul qui a dit ça. Mais Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. De sorte que l'autorité de Paul, c'est l'autorité du Christ. Et l'autorité du Christ, c'est l'autorité de Dieu. Je ne parle pas de moi-même, ce que je dis, les choses que j'ai entendu dire par mon Père. Voilà ce que vous lisez dans l'Évangile. Chapitre 5, verset 3, eh bien vous avez aussi cette vérité essentielle. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, ils n'échapperont point. Oui, et puis c'est la venue du Seigneur. Bon. Alors, je vous rappelle maintenant brièvement les quelques règles que nous devons observer si nous voulons bien comprendre une épître. Donc, savoir qui a écrit la lettre. Qu'est-ce qui a écrit la lettre? Paul. Pour qui a-t-elle été écrite? Un deuxième point. Pour les Thessaloniciens, d'abord, hein, et puis tous ceux qui croiraient. Et où voyons-nous qu'elle est écrite pour les Thessaloniciens? Dans le premier verset. Hein. Elle est adressée à l'église des Thessaloniciens. Et quel est son objet direct? Ce but évident dont j'ai parlé, c'est la venue du Seigneur. Alors vous voyez qu'il était bien nécessaire de lire toute l'épître sans nous arrêter, en cherchant d'abord le but évident. Puis, nous avons lu hier, au chapitre 17e, et je le dis pour ceux qui n'y étaient pas, des actes où nous savons comment la ville de Thessalonique a reçu l'Évangile. Vous pouvez reprendre aussi les notes que je vous ai données ici, dans la page 2, comment les Thessaloniciens ont reçu l'Évangile en l'année 50. Et 51, en 51, c'est le moment où il a écrit la lettre, hein, mais c'était donc un peu avant. Mais il y a été très peu de temps. Je ne dis pas qu'il est resté simplement 3 semaines, mais il a prêché 3 sabbats. Mais il a peut-être été un peu plus longtemps quand même, parce que si vous lisez les Philippiens, c'est toujours la lecture complète de l'écriture qui nous enseigne. Les Philippiens, quand il leur écrit, il les remercie. Au sujet de quoi? Il leur dit, au verset 10 du chapitre 4, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » Philippiens 4, hein? « De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensiez déjà. » Donc, les Philippiens avaient envoyé un don matériel. Mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, et nous, est-ce que nous avons appris, à être content dans la situation où je me trouve. L'histoire que je vous ai racontée hier, hein, de cet homme qui dit, moi j'étais mécontent de tout, mais maintenant ça a changé. Puis la femme qui me parlait lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un est entré dans ma vie. Et la femme qui me racontait ça pensait que c'était une femme. Quelqu'un est entré dans ma vie, alors tout a changé, j'ai une femme dans ma vie. Non. Alors elle lui dit, mais alors, qu'est-ce que c'est qui est entré dans votre vie? Une personne, Jésus. C'est beau, ça. Hein? Quelqu'un est entré dans ma vie, Jésus. Elle est partie. Cette personne est partie, ce jeune homme est parti. Quand quelqu'un entre dans notre vie, ça change. Alors vous voyez, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve, verset 11. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être assasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la détresse. Et puis, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est beau, hein? Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoya déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc vous voyez, cette église de Philippe qui n'avait pas même une synagogue, hein, ils se réunissaient sans avoir une salle d'abord, où Paul avait prêché, eh bien les croyants de Philippe avaient ressenti qu'ils avaient une charge vis-à-vis de l'apôtre qui leur avait apporté l'évangile. Et quand il est parti dans la deuxième ville évangélisée en Europe, qui était Thessalonique, ils ont envoyé à deux reprises. Or, s'il est resté que trois semaines, hein, ça devait être presque chaque semaine, alors. Mais, enfin, on pense qu'il a pu rester un peu plus que trois semaines. Mais, disons, ça n'a pas tellement dépassé un ou deux mois. Mais il n'a pas pu tout leur dire, et puis, il y a eu tout de suite les persécutions, et ils ont dû partir. Alors, nous revenons à notre épître. Donc, si vous voulez savoir comment ils ont annoncé l'évangile, en partant de Philippe, c'est en lisant le chapitre 17 des Actes. Vous voyez Paul et Silas, vous savez qui est Paul ? Je n'insiste pas. Vous savez qui est Silas ? C'était un Hébreu qui habitait à Jérusalem, et quand il y a eu le premier concile de Jérusalem, et qu'ils ont décidé de ne pas obliger les païens d'être circoncis, on a écrit une lettre pour l'église qui se réunissait à Antioche, et on a envoyé deux personnes avec Paul et Barnabas, et c'était ce Silas. Silas était un croyant de Jérusalem, donc, parmi les Juifs, et il est devenu le compagnon de Paul. Et c'est lui qui a souffert avec Paul à Philippe, qui a été emprisonné après avoir été battu. Ils ont subi un tremblement de terre, mais qui les a délivrés. Vous voyez qu'un tremblement de terre peut être aussi une délivrance. Ça a délivré l'apôtre Paul et Silas. Les portes se sont ouvertes. Rien n'est contre vous, mes amis. Vous avez peur du tremblement de terre ? Mais ça a été une délivrance, ça peut être une délivrance. Ça peut être un jugement, mais ça peut être aussi une délivrance. Vous devez toujours voir les deux aspects. C'est cela que vous enseigne la parole. Alors vous restez dans la paix. Vous n'êtes pas tout le temps angoissé. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Alors, vous comprenez pourquoi, en écrivant sa lettre, Paul s'adjoint Sylvain. Et si vous me demandez, mais pourquoi est-ce qu'il s'est adjoint Timothée ? Eh bien, si vous avez lu l'Épître comme on l'a fait hier soir, vous apprenez que Paul, quand il a dû quitter Thessalonique, il avait tellement peur que les Thessaloniciens flanchent sous les persécutions, qu'il est parti lui, parce que sa vie était menacée, mais il a laissé Timothée qui est allé prendre des nouvelles. Et qui lui a donné, au chapitre 3, des nouvelles qui l'ont rassuré. Alors vous comprenez pourquoi Timothée est nommé dans ce premier verset. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas ? Paul, Sylvain et Timothée. Et Timothée, qui était-il ? C'était un jeune homme qui avait été converti, où, dans le chapitre 14 et 16 des Actes, vous avez l'illustration de ce qu'a été Timothée, qui veut dire honneur de Dieu. C'était un jeune homme dont la mère était juive, qui avait une grand-mère, Loïs et Eunice, c'était ses parents, et le père était grec. Et puis voilà que ce Timothée s'est converti au Seigneur. Je pense bien que c'est lorsque il a vu Paul qu'on lapidait, et tout à coup Paul, qu'on croyait mort, s'est levé, il s'est donné au Seigneur. Et Paul dit, c'est mon enfant dans la foi. C'est par le moyen de Paul que Timothée a été sauvé. Et il est devenu le compagnon de Paul. Alors, il classe aussi Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Alors, qu'est-ce que c'était cette église ? Il y avait longtemps qu'elle était fondée ? Et comment s'appelait-elle, cette église? Quel titre est-ce qu'elle avait? À l'église qui est en Dieu. Est-ce que vous êtes dans une église qui est en Dieu? Mais en Dieu connu comme quoi? Comme un père. Est-ce que dans votre église, on vous enseigne cela, et c'est cela qui doit être enseigné? L'église, elle est en Dieu le Père. Elle n'est pas dans une doctrine particulière. Elle est en Dieu le Père. Et c'est quelque chose de fantastique. Ça veut dire que les membres d'une église sont des gens nés de nouveau. Ce n'est pas un mélange. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau et qui peuvent appeler Dieu leur Père. Vous n'avez pas à connaître d'autres églises. Alors, ici, chers amis, quelle que soit la dénomination dans laquelle vous êtes nés ou avec qui vous vous rassemblez, nous voudrions que vous saisissiez, ça, nous ne parlons pas contre ceci ou contre cela, mais que vous êtes une église qui est en Dieu le Père. Nous sommes réunis sous le regard du Père. Nous connaissons Dieu comme un Père. Alors, si vous connaissez Dieu comme un père et que je connaisse Dieu aussi comme un père, qu'est-ce qu'on est les uns pour les autres? Des frères, pas des cousins. Ou des cousins éloignés. Nous sommes des frères. Et cela, eh bien, je mourrai pour ça. On peut me mettre dehors, on peut me chasser, on peut faire n'importe quoi. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus sont mes frères. Ceux qui l'ont reçu sont mes frères. J'oublie le reste. Ils sont mes frères. Et c'est ça qui est beau. Et c'est cela qui nous permet de nous témoigner un amour véritable et ne pas changer de trottoir parce qu'on ne veut pas rencontrer celui d'une autre église. Hein? Comment est-ce que nous témoignons de l'unité? On est en Dieu le Père. Alors, ce Père, on doit le connaître. Vous croyez en Dieu le Père, qui est un Père bon. Un seul est bon, c'est le Père. Il nous a été révélé par qui? Par Jésus-Christ. Alors on est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui nous l'a révélé. Et alors, que la grâce et la paix vous soient données. Quand on a ces sentiments-là, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une grâce et que vous allez rester dans la paix. Et vous voyez le verset 2, l'apôtre est plein d'actions de grâce. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Il n'était plus là, mais il pouvait prier pour eux, et il savait qu'il était exaucé. Nous rappelons sans cesse, et c'est tellement beau ce qu'il dit, l'œuvre de votre foi. Qu'est-ce qu'il avait prêché, Paul, là? La foi. Et qu'est-ce que cette foi avait produit? Une œuvre. C'est ça qui est merveilleux. Dans une église, si vous prêchez la foi, cette foi doit produire une œuvre. Et puis, le travail de votre amour. Qu'est-ce qu'il leur avait prêché? L'amour. Et alors, l'amour les avait poussés à travailler. C'était pas quelque chose de pénible. Il avait prêché la foi et l'amour. Et puis, il leur avait prêché quoi? L'espérance. Qui n'est pas encore une réalité, mais quelle espérance? Le retour du Seigneur. Elles étaient tellement vraies, tellement beaux, alors que il leur parle de la fermeté de leur espérance. Ils espèrent toujours dans le retour du Seigneur devant Dieu notre Père. Et il leur dit, vous savez, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Est-ce que vous le savez? Quand la parole a été reçue, on sait qu'on est élus. On ne sait pas avant, hein. Mais une fois qu'on l'a reçue, croyez et vous saurez. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à votre esprit que vous êtes élu, que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, et vous ne mettez pas en doute la parole de Dieu. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, comme on l'a dit, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Vous savez, Paul venait d'être battu, il aurait pu se dire en mauvais état, qui n'était pas en forme, c'est pas ça qui le préoccupait. Car vous n'ignorez pas comment nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Quand il y a vraiment un exemple, il y a des imitateurs. Eh bien, que nous puissions, et que vous puissiez vous-même découvrir tout ce qu'il y a dans ce chapitre. Ils deviennent les imitateurs de Paul, ils deviennent des modèles pour les autres. Est-ce que vous cherchez un modèle dans votre église? Non, devenez un modèle pour les autres. Finissez de chercher un modèle. Devenez un modèle pour les autres. Et vous verrez comme ça va changer l'esprit de l'église, de la communauté. Vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, et non seulement, en effet, la parole a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Pas parce qu'on a fait des grandes organisations pour faire connaître la foi, mais ces vies transformées ont tellement parlé au monde que le monde en parlait. On n'avait pas besoin de faire des réunions de témoignage. On en parlait, le monde parlait. Vous savez, la vraie réunion de témoignage, c'est quand le monde dit, ben ces gens-là, ils ne sont pas comme les autres. Ce n'est pas pour nous glorifier, hein, mais voilà, votre foi envers Dieu s'est fait connaître. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Voilà la conversion. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? C'est un demi-tour. Hein. Ils étaient idolâtres, ils étaient païens, ou ils étaient juifs, assujettis à la loi, et puis tout à coup ils ont entendu l'évangile qui les a libérés, et la conversion c'est un demi-tour. Quand je regarde de ce côté-là, je vois une porte, hein, mais si je fais un demi-tour, je vois autre chose, hein, je vois ce tableau. On n'a plus les mêmes vues quand on est converti. Ce n'est plus le monde qui est devant nous, c'est le ciel. Et nos relations sont avec le ciel. Et alors, ils attendaient, ils étaient au service du Seigneur, et ils étaient convertis pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère. Et dans le chapitre 2, puisque je vous ai demandé de relire jusqu'au verset 12, vous verrez ce que Paul dit, comment il a été avec Silas pour prêcher l'Évangile. Dieu notre Père, nous voulons maintenant te faire éperdument confiance et laisser nos bien-aimés méditer eux-mêmes ta parole en relisant ces textes. Qu'ils ne soient pas préoccupés par les questions, si elles peuvent leur servir, qu'ils s'en servent, s'ils ont autre chose et mieux, conduis-les par ton esprit. Et que nous puissions nous retrouver après, dans la joie et dans la paix, ce chapitre n'étant plus dans le livre seulement, mais dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit, qui est notre mémoire, rappelle jour après jour, heure après heure, dans la vie quotidienne. Car si nous sommes venus ici, c'est parce que c'est dur de vivre dans le monde. Et nous devons encore y vivre, en attendant que tu viennes. Mais qu'en attendant que tu viennes, nous puissions connaître les ressources que tu nous as données pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, nous voilà déjà arrivés dans cet après-midi du 21 octobre. Et nous allons continuer notre étude. Je voudrais simplement vous rappeler que si vous trouvez qu'il y a trop de questions, eh bien, vous n'avez pas à y répondre. Et si vous avez des questions bien meilleures qui vous préoccupent, vous les mettez dans votre page. Et puis vous nous le direz, et on essayera de vous répondre. Mais il y a souvent ici des personnes qui ont de la peine à méditer seules parce qu'elles n'ont pas eu cette habitude. Alors on a mis ces questions-là, j'ai mis ces questions-là pour vous aider à réfléchir, à étudier. Mais toutes les réponses, vous n'avez pas à les chercher à droite et à gauche, elles sont dans le texte que vous venez de lire. Puis, évidemment, il y a différentes réponses, et une réponse n'est pas nécessairement fausse, ou s'oppose à une autre. Il faut les rassembler, il faut les réunir. Mais si vous avez mieux que cela, parce que nous n'avons pas de prétention là-dessus, eh bien, faites mieux. Alors, pour cet après-midi, nous allons continuer cette étude. Évidemment, je le comprends, vous vous êtes arrêté sur les premières questions, et ce qui se trouve au fond dans le chapitre 2, jusqu'au verset 12, vous n'avez guère pu vous en occuper. Alors, même si je vous déçois, je vous relis depuis le chapitre 2, n'est-ce pas? Parce que ce que je voudrais, ce n'est pas que vous ayez l'enseignement de Racine, mais que vous ayez la parole de Dieu dans le cœur, vous y preniez goût, et que ces paroles vous éclairent, vous illuminent, et fassent autorité sur vos cœurs. Non pas que vous disiez, mais moi je pense ceci, qu'est-ce que ça peut faire ce que vous pensez? C'est tout bon à la poubelle, nos propres pensées. On sait très bien ce que la chair peut penser. Mais et ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Et voyez-vous, la vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toutes choses. Et la pensée de Dieu, elle nous a été révélée dans l'Écriture sainte. Jésus est venu pour cela. Et quand il en a témoigné, les hommes n'ont pas voulu de son témoignage. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a crucifié. Et on a évidemment, quand ils viennent ici, qui sont scandalisés parce qu'il y a encore le crucifix. Mais mes amis, est-ce qu'il y a eu un crucifix? Est-ce qu'il y a eu une croix? Ça nous rappelle la croix, mais nous n'adorons pas le crucifix. Mais nous nous souvenons que Jésus a été crucifié, oui ou non? Et nous nous souvenons que c'est pour qui qu'il a été crucifié? C'est pour nous, pour nos péchés. Mais nous n'en faisons pas un objet d'adoration. N'est-ce pas? Mais nous adorons celui qui a été crucifié, mais qui maintenant est ressuscité, qui est vivant, et on sait où, il est vivant à la droite de Dieu, et il nous a promis qu'il reviendrait. Et c'est notre grand thème, il a dit qu'il reviendrait, et nous le croyons. Et cela peut arriver au cours de notre propre existence. Vous pouvez être de ceux qui ne passeront pas par la mort. Vous direz, mais quel malheur, j'ai déjà fait mon arrangement. Mon préarrangement. J'ai fait mon préarrangement. Alors, si je ne meurs pas, eh bien, laissez ça aux pompes funèbres. Voyez-vous, on se fait du souci, ne vous troublez pas. Attendez le Seigneur. C'est tellement mieux que tout ce que nous pouvons espérer ou penser, ce qui nous attend. Hein. Alors, je lis depuis la fin du chapitre 1er, hein, verset 9. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous savez, c'était des idolâtres, hein. Il y avait des païens, comme vous l'avez vu dans le chapitre 17, il y avait des Grecs, mais qui avaient la crainte de Dieu, qui cherchaient. Est-ce qu'il y en a qui cherchent encore ici parmi vous, qui sont en recherche? Mais il faut que cette recherche aboutisse. Elle peut aboutir aujourd'hui. Cherchez et vous trouverez. Mais cherchez pas quelque chose, cherchez quelqu'un. Vous avez tout pleinement en lui. La chose que vous recherchez, vous l'avez en lui. Alors recevez-le lui et vous verrez ce qu'il fera. Alors, ils se sont convertis, détournés de leurs idoles vers Dieu, le Dieu vivant. Avant, c'était un Dieu qu'on devait porter, une statue, tout ce que vous voulez. Mais ils ont trouvé le Dieu vivant, celui qui a des yeux qui voit. Une statue a des yeux, mais elle ne voit pas. Vous avez le psaume 115 qui vous donne une description de ce que sont les idoles. Hein. Elles ont une bouche qui ne parle pas, des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne nous touchent pas. Quand on est au Seigneur, on connaît sa main. il nous tient par la main et il ne nous lâchera pas. Et si même nous tombons, il nous relèvera. Il ne va pas nous donner le dernier coup de pic quand nous sommes par terre, hein, comme nos frères le font trop souvent. Pour nous juger, on est là, hein, mais pour nous relever, ah, ils sont loin. Eh bien, ce n'est pas l'exemple du Seigneur, mais justement l'apôtre Paul, qui savait de quoi il était sauvé, à quoi le Seigneur l'avait arraché, lui qui se réjouissait même en voyant couler le sang des martyrs, et puis il est devenu lui-même un martyr. Mais il avait dû passer par cette école de la souffrance. Mais il pouvait en parler, et on savait que ce qu'il disait était vrai. Alors, quand il a prêché, on a cru sa parole, et ils se sont détournés des idoles pour attendre des cieux son Fils, le Fils de Dieu, qui est la révélation de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parce que, quand vous dites que vous croyez en Dieu, ça ne me rassure pas. Il y a un tas de gens qui croient en Dieu. Mais le vrai Dieu ne peut être connu que par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, dit l'Écriture, lui nous l'a fait connaître. Il n'existe pas de connaissance réelle et personnelle de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Alors, ce que vous devez croire, c'est croire ce que Jésus-Christ a dit. Vous croyez en Dieu, c'est bien, hein? Mais si vous voulez connaître Dieu, croyez en moi. Parce que c'est en Jésus qu'on a vu ce qu'était l'amour, qu'on a vu ce qu'était la bonté, qu'on a vu ce qu'était la miséricorde, qu'on a vu ce qu'était le pardon. Figurez-vous cette femme qui était prostituée et qui était jugée par tous. Elle a osé s'approcher dans une maison de riches, dans la maison du pharisien. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé en lui? Le pardon, la délivrance. Et elle est devenue cette servante du Seigneur que l'on retrouve au pied de la croix. Oh, ce que Jésus a fait, ce que Jésus fait encore aujourd'hui pour ceux qui s'approchent de lui. On se détourne des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, qui nous délivre de la colère à venir. La colère vient sur le monde, et vous savez, mes amis, hein, cette colère, elle sera à la mesure des iniquités de la terre. Et quand on pense à toutes ces marches, mais évidemment, les chrétiens sont tellement benés qu'ils s'exaltent parce qu'on leur parle d'une marche pour Jésus. Il y a tellement de marches qui se font pour n'importe quoi. Puis maintenant, pour que ça ait l'air quand même mieux, on fait la marche pour Jésus. Marcher pour Jésus une journée. Puis on compte combien il y a eu de marcheurs sur la terre. Mais c'est tous les jours qu'on marche pour Jésus. C'est pas une journée par année. Comprenez-vous? Mais on est complètement aveuglé. Ce n'est pas une marche pour Jésus qui est un témoignage chrétien, une marche d'une journée, c'est marcher tous les jours dans le détail. Alors, comprenez-le, reprenez vos sens, réveillez-vous, ayez un peu d'esprit critique quant à tout ce qu'on vous propose, soi-disant de spirituel. Ah, mais ça fait bien. On a marché pour Jésus, on a pris position pour Jésus. La vraie position pour Jésus, vous savez comment on l'a fait? C'est sur ses genoux. Quand on s'humilie, puis qu'on lui demande pardon pour toutes les fautes que nous commettons encore, parce que nous sommes tellement charnels, alors nous venons vers lui. Et puis nous lui disons, quel grand sauveur tu es pour moi. Alors, Paul a donc prêché. Mais il a prêché avec conviction, parce que ce salut qu'il apportait aux autres, il en faisait l'expérience. C'était pas quelque chose pour lui de salut. C'était qui? C'était Jésus. Celui qu'il persécutait était devenu son maître. Vous savez vous-même, chapitre 2, et j'espère bien, si vous avez relu cela, vous avez une autre idée de Paul que celle que l'on vous a peut-être donnée. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup Paul. Ils le trouvent dur et je ne sais trop quoi. Mais on dirait qu'ils n'ont pas lu la parole. Mais relisez la parole, ayez des convictions sur Paul. Regardez. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Quels étaient les résultats? Des vies transformées, des gens qui cherchaient, qui allaient chez les Juifs pour trouver dans cette religion la paix, puis qui ne l'avaient pas trouvée. Puis tout d'un coup, voilà ce Paul qui vient et qui leur présente Jésus. Alors quelques Juifs le suivent, parce qu'il y a eu des conversions chez les Juifs. Hein. Et puis, ceux qui ont le mieux écouté, c'était les païens. Et alors, ils se joignent à ces Juifs qui ont suivi l'apôtre Paul. Et puis alors, ce qui est très beau, hein, il y a eu... Qui était le plus grand nombre de sauvés, là? Des femmes. Puis pas n'importe quelle femme. Des femmes de qualité. C'est beau, ça, hein? Des femmes de haut rang ont été touchées par le Seigneur et ont délaissé les idoles. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 17 des Actes. Alors, vous avez vu vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, c'était la ville où ils avaient évangélisé, mais où s'était converti le geôlier, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Quand on est persécuté, chers amis, c'est pas dangereux. Ça nous donne de l'assurance. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. On ne va pas se taire parce qu'on nous a rabroués. Au milieu de bien des combats, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, vous voyez, il était conscient que Dieu lui avait confié l'évangile. Alors, il parlait au nom de Dieu. Nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais mon premier auditeur ici même, c'est qui? C'est vous? Non, c'est Dieu. Dieu est mon premier auditeur, et tout ce que je dis de son fils, il l'entend. Alors comment est-ce que je parle de son fils? Nous ne cherchons pas à plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, il n'a pas peur de les prendre à témoin. Et j'aime beaucoup ces jamais. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais faire. Eh bien là, vous avez deux jamais. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Pour, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Et quand on pense à tous ces gourous, à tous ces chefs de secte qui pullulent aujourd'hui, ils veulent l'argent des autres. Et la première chose qu'ils font, c'est de chercher l'argent. Eh bien, que le Seigneur nous garde de tout cela. Nous n'avons jamais eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Ils n'ont pas cherché à se glorifier, à montrer tous leurs titres, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, puisqu'ils avaient été choisis. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et j'aime ces expressions. Paul, de même qu'une nourrice. Vous connaissez ce que fait la nourrice? Il y a beaucoup de mères ici qui ont été nourrices. Hein, prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers, que c'est beau, hein. Ça ne se sépare pas. L'évangile et la vie de Paul, c'est la même chose. C'est comme la doctrine de Jésus et la vie de Jésus, c'est la même chose. Il était sa doctrine et sa doctrine était sa vie. C'est merveilleux, cela. Et c'est cela que nous devons comprendre dans ce monde. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Et ça, c'est encore quelque chose. Paul a donné un exemple. Il n'était pas à la charge des autres, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Alors qu'aujourd'hui, on reçoit un tas de lettres pour qu'on prenne quelqu'un en charge, matériellement. On nous envoie même des chèques postdatés et tout ce que vous voulez. Tout ça pour la corbeille à papier. Parce que ce n'est pas une dépendance de Dieu. Ce n'est pas la dépendance de Dieu. Quand on dépend du Seigneur, on entre dans sa chambre, on ferme la porte sur soi, on lui expose nos besoins, et on sait qu'on a un Père dans les cieux qui sait que nous avons besoin de ces choses, et il sait nous répondre. Oh mes amis, que nous avons besoin de revenir à la parole, mais c'est pas ma parole, elle est dans votre Bible. Mais est-ce qu'elle est dans votre cœur? Est-ce qu'elle illumine votre intelligence? Elle donne de l'intelligence au compliqué, au simple. N'ayez pas peur d'être simple. Psaume 119, un merveilleux psaume. Vous me direz, il est trop long. Trop long. Alors, je reviens, verset 10. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite. Ah, c'est quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on apprend souvent sur ces gourous? Au bout de peu de temps, ils prennent les femmes qui les entourent, qui doivent coucher avec eux, puis ça se déclare, on le sait pour finir, parce qu'ils ont droit à tout, à l'âme, l'esprit, le corps, et les biens surtout. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous n'avons pas été pour chacun de vous, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Être un père pour ses enfants. Eh bien oui, l'apôtre Paul était comme un père pour ses enfants. Il savait prendre du temps, savait les écouter. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de qui? De Dieu, puisqu'il est notre père. Qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous rendez-vous compte? À quoi êtes-vous appelé? À son royaume et à sa gloire. C'est fantastique. Mais est-ce que ça ne nous touche pas? Est-ce que ça ne nous pénètre pas? C'est pourquoi, alors vous commencez ici votre lecture, vous. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous voyez ce que c'est que la puissance dont il parle dans le chapitre 1er. L'évangile que nous vous avons prêché, on l'a prêché dans la puissance. C'est un évangile qui était puissant, qui ne laissait pas les gens intacts, mais qui les transformait. C'était pas simplement, comme on dit aujourd'hui, la puissance, c'est de faire des guérisons, approchez-vous et vous serez guéris. Et si vous saviez tous les trucages qu'il y a dans ces réunions, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors, si vous croyez cela, alors vous vous avancez, tout le monde est malade, tout le monde sent tout d'un coup une chaleur, on vous dit que c'est une chaleur, vous avez, et puis voilà, vous êtes guéri, puis vous allez quand même au cimetière, avec toutes vos guérisons, multipliées. Oh, que nous puissions revenir à la simplicité de la parole, et croire que cette parole nous tient debout, parce que c'est la parole qui nous tient debout, j'en expérimente la force, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas des églises d'une telle sorte, c'est les églises de Dieu. On l'a déjà vu au premier chapitre. Hein, qui sont en Jésus-Christ. Les églises de Dieu, elles sont vraiment en Jésus-Christ. Dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Oui, dans cette Europe qui commençait d'être évangélisée, il y avait la même opposition qu'à Jérusalem au temps du Christ. Ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Paul sentait bien que la colère venait. Et quelle est cette colère qui est venue à ce moment-là sur Jérusalem? Quand Titus a accompli la prophétie de Jésus et qu'il a pris Jérusalem, Jérusalem a été détruite. La colère venait. Personne ne croyait à cela. Ce n'était pas possible que Jérusalem soit détruite. Pourquoi? Parce qu'il y avait le temple de Dieu. Le temple de Salomon était là. Moi, je n'irai pas me réfugier dans un temple. En tout cas pas. Parce qu'il y a trop d'iniquité et le monde est trop entré dans le temple. Alors, restez là où vous êtes, sous la protection du Seigneur. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une fois ou deux fois. Mais Satan nous a empêchés. Alors vous verrez la question qui est posée là. Quelle est en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant le Seigneur Jésus lors de son avènement, quand ils pensent qu'ils ont tenu, ils ont tenu fidèlement, ils se réjouissent de l'avènement du Seigneur, où le Seigneur manifestera toutes choses. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Si vous continuez, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alors, puisqu'on le sait, est-ce qu'on va s'étonner? Quand les afflictions sont là, on dit, eh bien Seigneur, tu le permets, et je me demande comment tu vas m'en sortir. Mais on a tout de suite cette foi que le Seigneur ne va pas nous laisser. Au lieu de nous lamenter, ou de nous révolter, dire pourquoi est-ce que tu permets cela? C'est pas pourquoi est-ce que tu permets cela. Si tu le permets, c'est que tu as en vue mon bien suprême. C'est comme cela que nous devons raisonner. Et lorsque nous étions, verset 4, auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Aussi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur, c'est donc Satan, ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé, ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons nous aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Vous voyez, il n'était pas préoccupé pour lui, il était préoccupé pour les autres. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus, voilà sa prière, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et je dis aussi, puisque je dois donner la réponse aux sœurs, que Dieu lui-même me montre, et je voudrais que vous soyez aussi en prière pour cela, si je dois prendre des réserves pour l'année prochaine, parce qu'il faut retenir une année à l'avance. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Il revient pour les siens et il revient avec les siens. Alors, vous allez maintenant dans vos chambres. Ô Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu as occupé les pensées de chacun par ta parole. Et nous croyons que tu as guidé aussi par ton esprit plusieurs à considérer leur propre voie et à devenir aussi, dans le temps présent, des imitateurs de Paul et de Silas, de ces hommes de Dieu et qui, après avoir connu tant de souffrances dans cette ville de Philippe, ne se sont pas découragés et ont poursuivi la course pour annoncer à d'autres âmes le merveilleux nom de Jésus, le seul nom par lequel les hommes puissent être sauvés, et que tu nous gardes lorsque nous avons des luttes, des combats, de nous décourager, mais au contraire, que tu nous montres que tu es justement en train de faire ton œuvre et de t'occuper de nous. Et si Satan rugit, c'est qu'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas content. Eh bien, donne-nous de ne pas le satisfaire en nous arrêtant, mais donne-nous de poursuivre jusqu'à ce que tu viennes. C'est la grâce que nous te demandons pour nous-mêmes et pour chacun de nous dans notre vie quotidienne où nous avons un témoignage à rendre en Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous as exaucé. Amen. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur qui est selon sa volonté, qu'est-ce que nous devons croire? Que nous avons les choses que nous lui avons demandées. L'heure sera la sienne, mais nous savons que c'était enregistré. Et nous aurions plusieurs exemples à vous donner. Eh bien, moi je suis très heureux de vous avoir entendu et je pense que vous avez remarqué que toutes ces questions, même s'il y en a plusieurs, ne sortent pas au fond de votre lecture. Elles vous ramènent au texte que vous venez de lire, donc ça ne vous éparpille pas. Alors, je suis heureux de voir que cela a été quand même compris. Et je pense que vous avez pu aussi apprécier de relire les textes. Est-ce que vous les connaissiez par cœur avant? Mais je ne dis pas que vous les connaissez maintenant par cœur, mais ils vous deviennent beaucoup plus familiers. Et puis, si vous avez peur de les oublier, eh bien, qu'est-ce qui peut vous consoler? Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler ces choses. Le Saint-Esprit est notre mémoire. mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir non pas une Bible pour y piquer un verset dans les mauvais moments, et de l'ouvrir on ne sait pas trop où, et de mal tomber, hein. Vous connaissez tout ce qui a déjà été dit là-dessus. On voudrait être encouragé, on a besoin d'une parole, et puis on ouvre la Bible, hein, et puis on met le doigt en fermant les yeux. Et Judas sortit et se pendit. Ah, vous connaissez ça, hein? Alors, c'est très encourageant. Aujourd'hui, que c'est le jour de suicide, les gens disent, ben voilà, la parole dit ce que je dois faire. Alors, on s'identifie à un Judas. Alors, comme ça marche pas, on se dit, ben, je referme la Bible. Et je l'ouvre. Puis je mets le doigt. Va et toi fais de même. Alors, vous y êtes. Comprenez-vous? C'est ça qui est dangereux quand on fait de la Bible un livre pour y piquer un verset. Tandis que quand vous êtes dans une difficulté, eh bien, vous priez, puis vous dites au Seigneur, je me souviens que dans ta parole, tu dis que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Eh bien, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin d'être éclairé sur ce point. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut vous faire? Il peut vous donner à ce moment-là la mémoire d'un verset que vous irez peut-être chercher et trouver dans la Bible, mais un verset qui vous revient en mémoire et qui vous donne la réponse. Alors, vous avez une certitude, vous avez une conviction et vous sentez que vous pouvez agir. Pour moi, dans ma vie, c'est ce que, par la grâce de Dieu, j'ai pu réaliser. Le Seigneur ne m'a jamais trompé. Mais il faut que la parole ne soit plus dans les couvertures du livre, mais que la parole soit en nous. Et alors, cette parole, on ne peut pas se souvenir de tout, mais le Saint-Esprit étant sensible, étant notre mémoire, puisque c'est Jésus qui a dit, le Saint-Esprit vous rappellera les choses que je vous ai dites. Alors, c'est très clair, on a une conviction, c'est la parole de Dieu qui nous a enseigné. Dieu peut nous donner aussi une réponse d'une autre façon. Mais je voudrais que vous ayez bien compris l'importance d'avoir la connaissance de cette parole. Et je suis heureux que nous ayons été conduits à lire cette épître aux Thessaloniciens, parce qu'elle nous montre ce qui existait au début, au fond du christianisme, de la propagation du christianisme. Il y avait combien d'années que le Seigneur était mort et qu'il était ressuscité? Une vingtaine d'années seulement. Eh bien, voilà ce que réalisaient déjà ceux qui acceptaient la parole du Seigneur 20 ans après ce grand événement qui allait donner son nom à notre ère, puisque nous sommes dans l'ère dite chrétienne, quoique il semble bien que nous soyons à la fin de cette ère. De sorte que nous avons appris des choses au sujet de ce qu'était une église, une véritable église en Dieu, les rachetés du Seigneur, et qui sont devenus, donc par l'œuvre de Christ, les enfants de Dieu. Alors je reviens juste à ces quelques questions. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de la manière dont Paul et Silas exercèrent leur ministère à Thessalonique? Eh bien, quand on a lu ce chapitre 2, en effet, vous avez bien répondu, nous voyons que nous devons avoir un certain caractère qui ressemble à qui, à quoi? Au caractère de qui? Du Seigneur. Si c'est le Seigneur qui habite en nous, si c'est sa personne qui est en nous, c'est lui qui regarde par nos yeux, qui écoute par nos oreilles, qui parle par notre bouche, qui nous inspire, qui aime par notre cœur, qui sert par nos mains et qui marche par nos pieds. La parole ne nous a pas laissés intacts, mais elle nous a transformés, et vous l'avez cité, nous tous, contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Est-ce qu'il est dit que nous nous transformons? 2 Corinthiens, chapitre 3. Est-ce que c'est nous qui nous transformons? Nous sommes transformés. Je relis ce verset 18, ou verset déjà 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous tous donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quand Jésus était au milieu des siens, que reflétait-il? De qui était-il l'image? Du Père, n'est-ce pas? Et ce qu'il aurait voulu que les disciples comprennent, c'est qu'en le regardant lui, ils voyaient qui? Le Père. Et quand un de ses disciples lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père », Jean chapitre 14, et cela nous suffit. Alors, quelle est la réponse de Jésus dans ce chapitre 14 de Jean? Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. À qui est-ce qu'il a dit cela? À Philippe. Et Philippe était l'un des premiers disciples de Jésus. N'est-ce pas? Si vous lisez au chapitre 1er de Jean, Philippe a été amené au Seigneur par qui? Parce que tout se lit dans la parole. Vous vous souvenez qu'il y avait deux disciples de Jean-Baptiste qui ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste qui regardait Jésus passer et qui dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et à deux reprises, il cite Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et alors au verset 37 du chapitre 1er, après ce témoignage de Jean-Baptiste, deux des disciples de Jean l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ? » Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui cherche ici ? « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu ? » C'est donc lui. Vous voudriez savoir où il demeure? Eh bien, venez et voyez. Et ils allèrent, et ils vinrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la sixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie qui est appelé le Christ. » Et ils le conduisirent vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Et puis, les conversions se font, les unes après les autres, par le témoignage d'hommes qui ont été avec Jésus. Eh bien, si dans cette retraite, vous avez pu avoir un tête-à-tête avec Jésus, vous serez certainement bénis et le Seigneur vous aura parlé. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de la manière dont Paul et Silas exercèrent leur ministère à Thessalonique? Mais elles sont toujours valables, ces leçons. Et je pense que vous avez bien répondu. Être dépendant du Seigneur, être entièrement disponible et ne se proposer que ce que le Seigneur aurait fait. Connaissions-nous l'apôtre Paul sous le jour dont il se dépeint dans ce deuxième chapitre? Bien, je trouve que c'est très précieux parce qu'on a de fausses idées, comme l'a fait remarquer notre ami, sur l'apôtre Paul. C'est pas parce qu'il était un persécuteur, un outrageux et un blasphémateur que vous devez croire qu'il était violent et autoritaire et tout ce que vous voulez. Il a pu être cela. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé quand il a rencontré Jésus? Il n'est pas seulement tombé à terre, mais il est mort. Il est mort à cette vie qu'il avait eue. Et quand on rencontre Jésus, on apprend aussi que nous ne pouvons pas continuer de vivre comme autrefois. Alors qu'est-ce qu'il faut? Accepter de mourir. Si vous n'avez pas accepté de mourir à vous-même, vous ne vous en tirerez jamais. La mort de Jésus est devenue notre mort. Si lui est mort pour nos péchés, ce n'est pas pour que moi je puisse continuer de vivre dans le péché. Alors, la mort de Jésus met fin à ma vie propre pour que je puisse vivre maintenant de la vie d'un autre. Qui est ma vie? Qui est votre vie? La vie de Paul, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il en dit lui-même? Christ est ma vie. Philippiens chapitre 1. Voilà. Voilà ce que vous devez retenir. Le Christ était sa vie. Christ était sa vie. Et cela, ça a été reconnu à Thessalonique aussi bien par des juifs que par des femmes de qualité, que par des païens d'origine grecque. Christ est ma vie. Et puis mourir, disait-il, c'est un gain. N'est-ce pas, c'était pas une tragédie pour lui. Mourir, c'était un gain. Pourtant, il n'attendait pas la mort, il avait attendu le Seigneur, mais il avait eu la révélation qu'il devrait passer par la mort. Alors, il disait, eh bien, je suis persuadé que le Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Et vous savez, cette année, j'ai eu un incident qui m'a beaucoup parlé. Un incident qui était un accident qui est arrivé en France, la veille de Pentecôte. J'étais ici à Montréal et j'ai reçu un téléphone qu'un jeune homme, que je connaissais bien, et qui avait étudié jusque-là au Cap Canaveral parce qu'il voulait aller dans l'espace. Il était brillant, il avait 23 ans, converti à l'âge de 18 ans. J'avais fait l'enterrement une année plus tôt de son grand-père à Cannes, qui lui m'avait demandé, m'avait dit, si je meurs, le premier, c'est toi qui fais mon enterrement. J'ai dit, mais je vais mourir avant toi. Mais voilà qu'il est mort. Et j'ai dû tenir ma promesse. J'y suis allé. Mais voilà, maintenant, c'était son petit-fils. Et on me téléphone, prie, instant, prie, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, le petit-fils était mort. Il s'était tué à 6h du matin. Mais ce qui était plus grave que sa propre mort, il avait tué deux personnes. Alors, la veuve de celui que j'avais enterré, donc sa grand-mère, me téléphonait, me suppliant de prier. Ce jeune homme était converti. Ce jeune homme était un brillant étudiant. Mais il vient pour se reposer à Pentecôte, à Cannes, et puis, au lieu d'écouter ses parents qui lui disent, tu sais, on voit que tu es très fatigué, tu as tellement étudié, tu as forcé tes nuits, tu n'as pas beaucoup dormi, tu devrais aller coucher. Oh, mais mes amis, les étudiants de Nice m'ont demandé d'aller passer la soirée avec eux. Il n'a pas écouté ses parents, il est allé passer la soirée à Nice. Ce qu'ils ont fait, je n'en sais rien, je ne pense pas qu'ils avaient bu, rien, c'est pas ça, en tout cas pas d'alcool, mais à 6h du matin, il a pris le volant de sa voiture, il était en voiture, pour rentrer de Nice à Cannes. C'est pas très long, c'est 32 kilomètres. Mais il a loupé la sortie de Cannes, où il devait rentrer chez ses parents. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand on loupe une sortie sur une autoroute? On doit aller jusqu'à la sortie suivante, hein, puis sortir alors complètement d'autoroute pour reprendre dans l'autre sens, la route qui retourne du côté de Cannes. Qu'est-il arrivé? Il n'avait plus son esprit vraiment très clair. Il a tourné sur la même route pour revenir. Comprenez-vous? Alors, il allait à sens contraire. Et dans un virage, il y avait une auto conduite par deux femmes, une de 35 ans et une de 42. Et le choc a été effroyable. Trois morts. Mais vous vous rendez compte, personne ne voulait faire l'enterrement. Alors on me téléphone, bon, aller spécialement là-bas, alors qu'ils avaient une grande convention chrétienne, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, mais c'est embêtant parce qu'il y avait la police, il y avait toutes sortes de choses, toute une enquête. Bon, alors, là, qu'est-ce que je dois faire, mes amis? On me supplie, mais c'est pas parce qu'on me supplie. Qu'est-ce que je dois faire? J'avais été le répondant pour le père de ce jeune homme. Ici, à Montréal, il avait fait ses études à Sherbrooke. Et j'avais été son répondant pour le père du jeune homme. Et j'ai compris, mais c'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de secours. Que ferait Jésus? Alors, si je dois demander à un comité, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez me donner un conseil? C'est pas ça. Et puis, toutes les agences sont fermées la veille de Pentecôte. Mais quand la conviction m'a été donnée, j'ai pas cherché un verset dans la Bible en piquant. Parce qu'il m'aurait dit « ne va pas ». Mais ce n'est pas parce qu'il serait dit « ne va pas, n'y va pas que je vais suivre. Il faut que j'ai la conviction dans mon cœur. Il me l'a donnée. Je téléphone. Nice, Montréal ne répond pas. Et je reçois immédiatement la réponse de Paris, la centrale de Paris. Je ne sais pas pourquoi. Puis on me dit « oui, on vous arrange, mais... » C'est un voyage en 72 heures. Il faut aller et revenir. Parce que j'étais obligé d'être de retour. Je suis parti. C'était pas drôle. De se trouver... Il y avait foule. Il y avait des musulmans. Il y avait des juifs. Il y avait toute une société. Des femmes de qualité aussi. Qui étaient là. Et puis toute une jeunesse. Les amis, les étudiants qui disaient « C'est pas possible, Dieu n'existe pas pour permettre une chose comme ça. » Parce qu'on l'aimait beaucoup, ce jeune homme. C'était un beau jeune homme. Je ne dis pas qu'il n'était pas sauvé. Il était sauvé. Mais une fois, vous pouvez être converti à 18 ans, mais celui qui avait été le moyen de sa conversion, il n'a pas voulu faire l'enterrement. Il est parti. Alors, comment parler à ces gens, à cette mère qui avait encore trois enfants, à se taire devant la police, devant tout ce monde qui était là, toutes les autorités. Et pour moi, ce qui était le pire, c'était de penser qu'il y avait deux personnes qui étaient tuées à cause de lui. Je ne savais rien de ces deux personnes. Mais comme c'était deux femmes, elles pouvaient être mères de famille. Une était de Marseille, l'autre, elle était d'Aix-en-Provence. Et quand l'avion descendait, quand je revenais de Montréal, donc Montréal, Paris, j'avais changé, et je descendais sur Nice, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'avais pas pu me préparer. Et j'avais trois messages que je devais apporter dans le salon funéraire, dans l'église, parce que le lendemain c'était à l'église, et puis sur le cimetière. Bien, vous savez, c'est pas drôle. Et l'avion descendait, je suis rentré, etc. Bon. J'ai dit, Seigneur, il y a eu du sang versé. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qu'il me rappelle? Psaume 51. Délivre-moi du sang versé. Oh, que c'est beau. L'Esprit Saint ne voulait pas que j'atterrisse avant que je sois délivré, libéré de cette histoire. Délivre-moi du sang versé. Parce que ce jeune homme, tout chrétien qu'il est, qu'est-ce qu'il avait fait? Rouler à sens inverse, à sens contraire, il a tué. Et c'est triste. Parce qu'alors, ceux qui le connaissaient bien, parce qu'il faisait partie d'une communauté, vous savez ce qu'ils auraient voulu? Mais il est auprès du Seigneur. Il est auprès du Seigneur. Puis ils auraient voulu qu'on chante des cantiques. Avec un monde fou qui était rassemblé là, des incrédules. Et puis là, nous chanterions des cantiques. C'est merveilleux parce qu'il est auprès du Seigneur. Bien non, chers amis. Le message n'aurait pas passé. Il fallait que je dise à ces très très chrétiens de gens, nous ne chanterons pas. Parce que nous ne sommes pas des triomphalistes. Nous sommes dans l'humiliation, nous sommes brisés. Vous comprenez? Et le Seigneur m'avait donné là, au salon funéraire, le psaume 130. Vous le connaissez? Le De Profundis, des lieux profonds, nous t'invoquons. Nous étions brisés. Parce que quand vous voyez ce jeune homme qui était grand dans un cercueil, enfin le cercueil était la même grandeur, mais il était tout ratatiné. Aller à 100 contre une auto qui va à 100, ça fait 200. Il restait rien. C'était bousillé. Puis voir le père, la mère. Vous croyez qu'être au service du Seigneur, on est glorieux? J'étais dans mes petits souliers. J'étais à genoux devant ce cercueil. J'étais une demi-heure sans pouvoir rien dire. Puis après, le Seigneur a donné des profondis. Et nous, j'ai lu ce psaume. Et puis nous avons pu prier, nous humilier. C'était comme une préparation. Pour le lendemain, alors il y avait foule, les gens sur la rue, et des Arabes, il y avait de tout. Parce que son père était un homme qui avait beaucoup d'affaires là à Cannes. Eh bien, la grâce de Dieu est là. Et il m'a donné de pouvoir convaincre ces braves chrétiens qu'on n'allait pas chanter. Mais quand même, pour leur donner une petite satisfaction, j'ai accepté qu'on lise les paroles du cantique que eux auraient voulu chanter. Alors je les ai lues. Je ne vais pas vous faire l'enterrement que j'ai fait là. Mais ensuite, on allait au cimetière. Hein. Puis ça se suivait. Puis je me suis dit, au cimetière, il n'y aura pas grand monde. Hein. C'était plein. Je me suis trouvé comme sur le Mont Carmel. Il y avait une poule. Alors, et toujours les parents, hein, et la pauvre mère. Et là, alors, le Seigneur m'a saisi. Et j'ai pu parler. Hein. Le monde entier vit à sens contraire. C'est vrai ou c'est faux? On roule à sens contraire. Le monde entier, nous vivons à sens contraire. Pour s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire demi-tour. Eh bien, je vous promets ça, Marc. C'est un tas de gens qui sont venus me dire, oh, comme c'est vrai, on n'y avait jamais pensé à ça. Le monde entier vit à sens contraire. Tout est à sens contraire aujourd'hui. Et vous savez, il a employé cette mort pour quelque chose. Mais je vous promets qu'il fallait la grâce de Dieu. Puis le lendemain, ben, je revenais. Puis on a eu le camp par la grâce de Dieu. Mais c'est seulement pour vous dire, l'apôtre Paul, Silas, tous ces gens-là, ils me parlent. Et quand je dois prendre une décision, j'ai des exemples d'hommes qui ont fait ce que Jésus aurait fait. Alors, on ne va pas demander conseil à Pierre, Jacques et Jean qui auraient dit, mais vous êtes fous avec ce que vous avez, vous en avez peut-être plus pour longtemps, puis vous faites encore tout cela. Non. Nous sommes appelés à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais quand j'étais devant ces jeunes, je leur ai montré qu'il ne suffisait pas de se convertir et d'être sauvés, mais qu'il fallait qu'on ait une vie à la gloire de Dieu et une mort à la gloire de Dieu. Comprenez-vous? C'est cela qui m'a beaucoup impressionné. Est-ce que notre mort sera à la gloire de Dieu? J'ai dit que nous n'attendions pas la mort, mais si nous devons mourir, je voudrais que ce soit à la gloire de Dieu. Non pas... Et voyez-vous, j'ai eu cette pensée, quand Jésus était fatigué, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Hein. Il a dormi même dans la tempête. Et ce garçon, s'il avait écouté ses parents et qu'il soit allé se coucher, ça ne s'est pas arrivé. Mais les parents, ben... Nous sommes jeunes, on a des réserves, mais on ne prend pas le volant à 6 heures du matin, quand on a passé la nuit, dans la veille, en pensant, ben, le Seigneur doit nous garder, parce qu'on est au Seigneur. Non. Il vous a donné du bon sens. Alors j'ai insisté sur ce fait que nous devions avoir non pas seulement une vie à la gloire de Dieu, mais aussi une mort à la gloire de Dieu. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Je m'excuse de vous avoir dit ça, c'est un peu personnel, mais enfin, ça vous montre combien nous devons dépendre, et ça reste dans ces questions. Ce que nous pouvons tirer aujourd'hui de la manière dont Paul et Silas exercèrent leur ministère à Thessalonique, comment moi j'ai à exercer mon ministère, que ce soit ici au Québec, ou au Canada, ou en Europe encore. Et ce que nous devons être. Comme Paul, qu'est-ce que je pouvais être pour cette maman qui venait de perdre son fils de 23 ans, qui était son confident parce que son mari a tellement à faire qu'il n'avait presque plus de temps pour elle. Alors elle était terriblement attachée à son fils aîné, et elle qui était une croyante pourtant vivante, elle doutait, elle me disait, mais c'est pas possible, garçon, que Dieu permette des choses comme ça. Il y avait la révolte. Et c'est pas en allant simplement lui donner de l'eau bénite que ça allait la calmer. Comprenez-vous? C'est là que vous sentez que vous n'êtes incapable de dire une seule parole. Il faut que ce soit toi, Seigneur, qui parle. Mais voilà, on est là ensemble. Mais souvenez-vous de cela. Je vous lis encore ce passage pour que vous voyez que c'est toute la Bible qui nous enseigne. Au chapitre 21 de Jean, Pierre était avec le disciple que Jésus aimait. Au verset 18, après l'avoir restauré, il lui dit, chapitre 21 de Jean, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains et un autre scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. C'est beau, hein? Donc, on doit avoir une mort à la gloire de Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Avoir une mort à la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas la mort que nous attendons. Alors, question 3. Ainsi, nous sommes conscients d'avoir été appelés par Dieu à son propre royaume et à sa gloire. Quelle doit être notre marche ici-bas? Ben, vous l'avez bien souligné, une marche à la gloire de Dieu et une marche dans la sanctification. À quoi attribuez-vous le fait que la prédication de l'Évangile fut reconnue comme étant non des paroles d'hommes, mais comme étant la parole de Dieu? Bien, je dirais que cette parole n'avait pas laissé intactes les Thessaloniciens. Elle les avait transformés. Et voyez-vous, la parole de Dieu, quand on la lit, quand on la mange, elle ne nous laisse pas intactes. Mais il faut la manger. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai. C'est là qu'on voit qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Elle agit, elle est agissante, elle opère des miracles. Alors la question 5, le caractère des Juifs qui persécutèrent les croyants thessaloniques, était-il meilleur qu'au temps de Jésus? Non, c'était les mêmes. Le cœur de l'homme ne change pas, il ne s'améliore pas. Satan est-il capable d'empêcher un serviteur de Dieu d'accomplir un bon projet? Bien sûr, n'est-ce pas? Mais il faut discerner si ça vient de Satan ou si ça vient de Dieu. Et Paul avait ce discernement, mais là, eh bien, il n'a pas pu s'y rendre. Mais c'est que Dieu voulait qu'il envoie au fond un autre que lui. Et ce fut Timothée. Et en finale, le diable fait une œuvre qui le trompe, comme il l'est dit. C'était une bénédiction pour Timothée, c'était une bénédiction pour Paul, une bénédiction pour nous. Alors, ne nous affligeons pas si tout n'a pas été comme nous le désirions. L'homme propose, mais Dieu dispose. Et Satan ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Vous voyez, dans toute l'histoire de Job, Satan est contrôlé par Dieu. Job a été éprouvé, c'est vrai. Mais, jusque-là, mais pas plus loin. Hein. Alors, que pensez-vous de la mission de Timothée? Eh bien, on l'a répondu. C'est une bénédiction pour lui, une bénédiction pour Paul, une bénédiction pour les Thessaloniciens. Et alors, l'avènement du Seigneur est-il pour nous un sujet de joie ou un motif de sanctification? Et un motif de sanctification, bien, nous voulons espérer que d'ici la fin de la journée, et demain en particulier, ce soit écrit comme un sujet de joie dans votre cœur et que vous osiez en parler. Quant à la sanctification, bien, si j'attends le Seigneur dans l'aujourd'hui de ma vie, je n'irai pas où je ne voudrais être, je ne ferai pas ce que je ne voudrais faire, je ne dirai pas ce que je ne voudrais dire quand Jésus vient, hein, parce qu'il vient d'un instant à l'autre. Alors, il n'y a pas une vérité plus sanctifiante que celle du retour du Seigneur. Quiconque, et quelqu'un l'a cité, 1 Jean chapitre 3, verset 1er, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est le moment de terminer.